Alors, le code.
Appel en cours.
Cosma. Très bien. Allô ?
Oui, bonjour madame, je vous ouvre.
Oui, c'est RFI, merci.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est un jour parisien pour en sol majeur, un jour où sonner à la porte d'un compositeur, violoniste et chef d'orchestre tel que Vladimir Cosma, c'est comme rentrer dans l'histoire de la musique, de ces musiques de films restées inoubliables, à siffler sous la douche ou dans les emboutes. Le grand blond avec une chaussure noire, c'est lui. La boum, Rabbi Jacob et Diva, encore lui. Le bal, le Père Noël est une ordure, un éléphant ça trompe énormément, ou le dîner de con, toujours lui. Récompensé, césarisé, plébiscité de nombreuses fois sur les 300 partitions signées, aux côtés des plus grands, Houri, Benex, Weber, Zidi, Mocky, Scola. On peut le dire comme ça, il y eut Michel Legrand et Claude Bolling, et puis un jour arriva Vladimir Cosma, qui aura quitté sa Roumanie de fer pour le pays des fables, celle de La Fontaine. Merveilleuse histoire du patrimoine français qui s'écrit et se tisse au fil des exils. C'est toute cette histoire qui est racontée dans « Mes mémoires, du rêve à reality » publié chez Plomb. Merci de nous recevoir chez vous, Monsieur Cosma.
Et merci d'être venu. Vous avez fait un bon résumé, maintenant je ne peux que partir. Quoi,
vous n'avez plus rien à dire.
Non, j'ai plus rien à dire. On peut écouter quelques musiques et puis s'en aller. Voilà.
Alors c'est beau chez vous, dites donc. Hein. On est avec une vue sur l'hippodrome d'Auteuil, dans les beaux quartiers du 16e arrondissement.
Ah, vous faites agence immobilière aussi.
Aussi, je fais tout.
Ah bon, d'accord.
Vous le vendez combien?
Mais il n'est pas à vendre. D'ailleurs, vous savez, c'est à cause de la musique que j'ai cet appartement.
Je remarque, en vous écoutant et en vous regardant, vos mains. Vous avez des mains toutes petites.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait eu si j'avais des grandes mains? Je deviendrais l'étrangleur de ouais. Je sais pas, il y a un film avec l'étrangleur.
Oui,
c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, non. Je suis musicien, pianiste. Et violoniste.
Il en est sorti des trésors de ses mains. Cela dit, vous ne savez pas écrire que de la musique. Un 400 pages de mémoire vient de sortir, ce n'est
500.
Pas rien. 500 avec les notes. Mais disons, pour le lecteur, il y a en gros 400 pages.
450, allez, en négociant.
Il faut être précis avec M. Cosma. Ma question, c'est celle-là. C'était déjà l'heure de vos mémoires, Vladimir Cosma.
Hélas. Et là, c'est l'heure de mes mémoires parce que j'ai 80 et quelques années. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas jouer sur son avenir à ce point-là. D'autre part, nous vivons dans une période où l'histoire devient de plus en plus mensongère. Dans la presse, on essaye de travestir les choses, de les raconter autrement qu'elles le sont. Donc, c'est peut-être le moment que je fasse le point sur tout ça et que je raconte ma vérité à moi. peux parler?
Oui, on a un abécédaire, donc il y a des mots qui vont pour lesquels on...
Avec,
voilà.
J'ai comme gramophone.
Et oui,
Brahms.
Brahms, voilà, ouais. Vladimir Cosma, car on va écouter bien sûr quelques-unes de vos musiques, mais aussi les musiques de ceux qui vous ont un peu mis le pied à l'étrier, bien. Si j'ose dire. Quel effet vous a fait Brahms lorsque vous le découvrez assez jeune, je crois, à la radio?
Je ne l'ai pas découvert à la radio. J'avais un oncle qui avait une discothèque extraordinaire. Et dans ses disques qu'il avait, il avait ce sublime concerto de Brahms qui était interprété, je me rappelle, par George Kuhlenkampf, qui était malgré un nazi notoire, c'était un grand violoniste. Et voilà, je ne sais pas si c'est lui qui joue là.
Oui,
c'est Kuhlenkampf.
Travaillé pour retrouver cette archive, absolument. Alors, vous aviez à l'époque une prédilection pour les musiques russes et françaises.
Vous savez, toute ma jeunesse à l'époque, on jouait en grande majorité du Beethoven, du Mozart, du Haydn, des symphonies. Tous les concerts étaient comme ça. Et je commençais à avoir ras-le-bol de cette musique très classique, très germanique. Et un jour, j'écoute la Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Tout d'un coup, le monde musical s'ouvre.
Pourquoi ?
Devant moi. Parce que c'était moderne, c'était coloré. C'était autre chose que des menuets, des gigues, des formes figées allemandes, germaniques.
C'était la symphonie.
C'était plus que la symphonie, parce que la symphonie est composée de formes figées. C'était le poème symphonique. C'est un des créateurs de l'impressionnisme, si je peux dire ça, même avant Debussy.
Соотечественники и соотечественники, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников.
Je ne sais pas si vous reconnaissez vraiment la voix de Staline, Vladimir
Écoutez,
Cosma.
Je me demandais si vous osez encore passer du Staline sur les radios.
En recevant Monsieur Cosma, oui, on ose.
Bah, écoutez, je suis un, comme le premier chapitre de mon livre s'appelle Un enfant de Staline. C'est parce que je suis né en 1940.
À Bucarest,
qui était un pays fasciste, occupé par les Allemands, etc. Et quelques années à la fin de la guerre, ce sont les Russes qui nous ont libérés. Donc, quand les Russes sont arrivés chez nous, on les a accueillis comme des bienfaiteurs qu'ils étaient.
Mais pour dire que dans votre vie de jeune Roumain, avant l'amour de Brahms, il y a eu le culte autour de Staline pour vous.
Autour de Staline, puisque je suis devenu pionnier. Pionnier, c'est le grade des enfants à l'école qui portent une cravate rouge et qui s'appellent pionnier. Et notre maître, notre père à nous, était Staline. Et on se réunissait dans des grandes places où il y avait des milliers, des centaines de milliers de jeunes. Et on criait Staline, Staline. Et c'était pour nous le petit père des peuples. Après, dans mon enfance, comme j'étais musicien, la musique était terriblement aidée par les communistes. Et j'ai connu une jeunesse dans laquelle j'ai rencontré Shostakovich, Prokofiev, Oistrakh, Richter, qui étaient russes.
Mais dans cette Roumanie, il y avait quand même une question qui se posait à vous. Comment être à la fois un vrai mélomane et un bon communiste, camarade Cosma? Et
ça.
Par exemple, aimer Debussy, le jazz,
ah oui, ça
c'était subversif.
Ça, c'était subversif. J'écoutais d'ailleurs, je me rappelle, la musique de jazz, etc. Elle n'était pas autorisé sur les stations roumaines officielles. Et pour écouter ça, j'ai écouté The Voice of America, qui était largement brouillé chez nous. Mais ces bribes de musique étaient très, très importantes, puisque quand je suis arrivé à l'Occident, donc vers l'âge de 22 ans, je savais beaucoup, beaucoup plus que les jeunes occidentaux qui avaient tout pour apprendre.
Françaises, Français, vous avez sous les yeux
ce qui est fait pour promouvoir la France.
Et oui, parce que la, dans cette Roumanie communiste, Vladimir Cosma, la France est un rêve familial.
Est un rêve familial et c'est un rêve national aussi, parce qu'il faut savoir que la Roumanie, c'est un pays latin, puisqu'on est entouré par la Russie, par la Bulgarie, par la Tchécoslovaquie, par la Pologne, par la Hongrie. Et quand on a été occupé par les Slaves, les Roumains sont retirés dans les montagnes. Et ils n'ont pas abandonné leur langue. On continue à parler la langue roumaine qui est proche de l'italien, proche du français, etc. Mais ils n'ont pas adopté la langue russe ou la langue slave qui était à l'époque.
Alors pourquoi cet amour de la France? Là, je reviens quand même dans le giron familial. Vous vivez aux côtés de figures qui sont imposantes chez vous, Vladimir. Il y a un certain Théodore, une certaine Clémence, un certain Edgar. Tout ce petit monde qui est dans la musique et les partitions rêve de la France.
Oui, c'est-à-dire que la culture, pour nous, c'était beaucoup la culture française. D'autre part, si on était musicien ou écrivain, la seule façon de devenir international par son art, c'était de devenir français. Si vous regardez dans l'histoire, les artistes roumains qui sont devenus internationalement connus sont ceux qui ont quitté la Roumanie et qui sont venus en France. Je parle de Brancusi, de Cioran, de Mircea Eliade, d'Enesco. Il n'y a pas un seul qui est resté en Roumanie et qui est devenu connu.
Alors, pourquoi vous la quittez, cette Roumanie dans laquelle vous dites vivre bien? Vous vous sentez en fait confortable,
oui,
dans cette Roumanie?
J'étais confortable. Je finissais mon conservatoire de musique après avoir eu des péripéties avec le régime, parce que je ne suis pas ni un communiste borné, ni un anticommuniste borné non plus. Donc quand j'étais...
Un négociateur.
Oui, je suis un peu... J'essaie de...
Diplomate.
Si j'aime Debussy, je ne vais pas dire que je ne l'aime pas, parce que ça ne prend pas...
Un tour de dissident.
Un tour de dissident ou de révolte ou autre chose. Je me dis, le jazz, j'aime le jazz, faisons du jazz. Alors, je suis parti de Roumanie parce que mon père a fait une très très belle carrière en Roumanie. Il est devenu le directeur de l'Orchestre National Electricord, qui était l'Orchestre National de Disques de Roumanie. Il faisait tous les disques et tous les artistes occidentaux de l'époque qui venaient en Roumanie, genre Yves Montand, Catherine Sauvage, beaucoup d'artistes connus venaient en Roumanie donner des grands concerts dans des stades roumains. Et pour ces concerts-là, ils avaient besoin d'orchestration, d'arrangements modernes, c'est-à-dire influencés, du jazz, des musiques comme ça. Et le personnage qui écrivait en Roumanie ce genre de musique, c'était moi. Donc on me demandait de les accompagner. Et ils ont considéré que j'aurais beaucoup de possibilités en venant à l'Occident. Ils ont dit à mon père, votre fils est très très doué, etc. S'il venait à l'Occident,
il ferait carrière,
etc.
Alors, puisque c'est votre talent, votre passeport, justement, j'ai un petit caprice vous concernant, Monsieur Cosma, c'est d'écouter en sol majeur la toute première chanson que vous avez composée, je crois, vers 15 ans, et qui faisait comme ça.
Să știi că e un joc, atunci când trec și nu te văd, e un joc. O fac anume ca să aud cum mă cerți și apoi cum zâmbind mă ies. Aș vrea uneori să stric, te iubesc, dar jocul-i mai tare ca mine. și fără să vreau din drum mă opresc, în loc să-ți spun ce gândesc. Să știi că te mint cu orice vorbă care doare te mint, dar fără vorbe din privit când te alint, să știi că atunci nu mint.
Vous savez quoi, on est bien sur RFI, Vladimir Cosma, oui. Et j'ai l'impression, je crois entendre dans ce morceau, une sorte de Michel Legrand roumain. Cette chanson, elle a une histoire.
Oui, c'est une histoire assez amusante. C'est une de mes premières musiques qui a eu un succès extraordinaire en Roumanie. Sous la main, comme ça, on l'a joué dans les jardins publics.
Ça veut dire quoi le titre, dites-nous ?
Sache que je te mens.
Et en roumain, ça donne ?
Sachti că te mint. Sache que je te mens quand je te dis que je ne t'aime pas.
Je t'aime moi non plus, quoi.
Voilà, voilà. Avant-terme. Donc, quand je suis venu en France, la première chose, je me suis dit, il faut que je fasse connaître cette chanson qui a fait ses preuves et qui pourrait peut-être faire un succès en France aussi. Mmh. Alors, je me suis adressé à des paroliers, des gens de Réjac, tout ça, ils ont fait des paroles. Jamais ils ont réussi à convaincre quelqu'un de la chanter. Et voilà, j'étais un peu déçu parce que voilà une musique auquel j'ai beaucoup plu et ne donne rien.
Mais ça reste une pépite.
Reste une pépite, mais oui. J'ai pas fini mon histoire.
Ah, mais oui, mais vous savez qu'on pourra pas raconter toutes les histoires,
mais,
Vladimir.
Oui, mais alors on enlève. Parce que si vous voulez, l'intérêt de ça, c'est qu'il y a quelques mois, j'entends ma musique sur toutes les ondes, des millions d'exemplaires vendus de ma musique chantée par un rappeur américain qui a un succès extraordinaire.
C'est
donc
fou, ça.
Si vous voulez, ça fait 70 ans plus tard, la renaissance de cette musique-là, ce qui montre qu'une musique n'est jamais morte. Quoi.
Exactement. Et voilà. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Voilà. Notre invité Vladimir Cosma dans Le Costume du compositeur né en Roumanie qui affiche 60 ans de carrière au bas mot et le titre de porte-bonheur des plus grands réalisateurs français.
Quel est le papier le plus précieux
dont vous êtes en possession ?
Le papier le plus important me semble être mon cahier de musique que j'ai depuis que je suis petit, où je marque mes thèmes de musique ou mes idées musicales. Puisque quand j'étais petit, j'ai eu le conseil d'un professeur qui m'a dit « Ne marque pas tes idées musicales ou des bribes ou des thèmes comme ça sur des petits bouts de papier que tu perdras ou des feuilles volantes. Fais-toi des grands cahiers et marque là-bas, deux notes, trois, mais elles resteront, tu ne perdras pas le cahier parce que c'est un grand cahier. Donc je suis parti de Roumanie avec deux grands cahiers de musique et mon violon. Voilà, mes cahiers, c'était mon trésor de guerre.
Si on reprend le fil de votre vie, à la lumière de vos mémoires que vous publiez donc chez Plon, Vladimir Cosma, on peut dire que le jeune exilé que vous avez été avait une bonne étoile en arrivant en France. Je laisse les auditeurs découvrir vos premiers pas dans cette France, mais vous allez vivre une période extraordinaire sur le plan musical, assister à l'éclosion, par exemple, du bebop, de la bossa nova. Vous allez croiser les plus grands dans le jazz, Miles, Bill Evans ou Errol Garner. Et puis, là, je reviens à Paris, parce que vous voyagez déjà pas mal, hein, mais à Paris, au milieu d'une vie déjà bien remplie, entre des tournées, des concerts, vous rêvez de recevoir des cours d'une experte de la pédagogie.
Et puis, soudain, elle s'épuise.
Et Gulli ?
C'est
incroyable.
On croit ainsi, mais c'est pas vrai, ça ne va pas rester.
Avec ce même mot chaque accord ouvre une perspective.
Nous nous trouvons ici à Paris, chez Nadia Boulanger. L'œuvre qu'elle fait travailler, en insistant sur sa surprenante harmonie, est la fantaisie en ut mineur de Mozart. Elle essaie d'en faire percevoir à ses élèves la richesse de l'enchaînement des accords.
Il a raison, ils écoutent. Et alors on croit qu'on est en mi bémol mineur. Et puis tout d'un coup, un élan de tendresse, si majeur, pour dièse ténor.
Extraordinaire Mademoiselle Boulanger, donc, qui a eu pour élèves Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass, Michel Legrand, et puis vous, Monsieur Cosma, comment ?
Beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, bien sûr. Mais comment s'est passée cette rencontre entre le faux timide que vous étiez très déterminé et cette experte en esthétique musicale ?
Écoutez, la rencontre s'est passée formidablement bien parce qu'elle m'a adopté. Elle m'a même prêté une chambre de bonne rue Ballu où elle habitait. Elle m'a donné des cours. Mais ça, c'est pour montrer le bon côté de la chose. Deuxième côté, c'était qu'elle était une personne extrêmement de droite. Donc elle ne supportait pas que je critique les choses qui se passaient à l'Occident. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait ma première tournée comme violoniste, je suis allé en Amérique et j'ai vu des gens dans la rue, à côté des métros. C'est terrible, on ne trouve pas ça chez nous en Roumanie. Dans les pays communistes, il n'y a pas des gens dans la rue. Mais évidemment, ils sont peut-être dans les prisons. Mais,
ouais.
Mais je m'imaginais l'Occident comme le paradis sur Terre, etc. Et je voyais que ce n'était pas tout à fait le cas et je lui disais... Alors, elle était révoltée. Puis, il y avait une chose, c'est que c'était pas un compositeur, c'était pas un musicien, c'était devenu un professeur de musique, et notamment professeur de contrepoint, un des plus célèbres. Et moi, je suis venu chez elle pour apprendre le contrepoint. C'est une technique très difficile, très complexe, et c'est elle qui est un des derniers survivants de l'école ancienne de contrepoint.
Elle vous a, il me semble, dans ma mémoire,
en
lisant les vôtres de mémoire,
oui.
Qu'elle vous a en fait invité.
Oui, elle m'a donné un conseil essentiel. Dans cette période de ma vie, il régnait l'esthétique Boulez. C'est lui qui conduisait la musique en France et tout était pour une musique très moderniste, influencée par l'école de Vienne qu'il prenait. Et tout le reste, ça n'avait aucun intérêt. Alors, faire des choses musicales, la musique populaire, le jazz, tout ça, c'était rien du tout. Donc, à ce moment, il y avait des concours internationaux où on présentait des pièces au concours. Et si on avait le prix, on avait un peu d'argent, etc. Donc, je me suis mis à commencer à faire les concours et je faisais des musiques extrêmement modernes. Puisque si vous ne les faisiez pas dans cet esprit-là, vous n'étiez pas accepté. Et un jour, elle voit ces musiques et dit « Mais pourquoi vous faites de la musique tellement moderne, décaphonique et tout ça ?» Ben, j'ai dit « Mademoiselle, vous savez, moi, je dois gagner ma vie. » Alors, elle me dit « Bon, d'accord, pour les concours, vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez jamais qui vous êtes et d'où vous venez. Les musiques que vous faites modernes comme ça, tout le monde peut en faire aujourd'hui, mais celle que vous m'avez montrée, il n'y a que vous.
Merci, Mademoiselle Boulanger. En tout cas, si on se rapproche des partitions qui ont fait votre succès et celui de certains films français, Vladimir Cosma, vous êtes rapidement dit tout terrain. On a choisi quelques-unes des partitions dans votre immense palmarès, celle-ci par exemple.
Thank you. bien?
Oui, moi aussi.
Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne.
Oui?
J'ai un secret.
Ah bon?
Je ne suis pas seulement violoniste, j'ai une autre activité.
Oui?
Je compose.
Comment?
Comment?
Oui, je suis aussi compositeur, mais personne ne le sait. J'écris un opéra. Ça m'a pris 3 ans. Et je continue à le travailler, je le sortirai quand il sera au point.
Oui. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je vais te le jouer.
Quoi?
Le grand air seulement. Tu vas voir, c'est quelque chose.
Mais tu vas pas jouer du violon à cette heure-ci?
Tu es la première personne au monde à l'entendre. Je te préviens, c'est très moderne. Hein?
Mais enfin, François! Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas?
C'est très beau, mais c'est pas le moment.
Alors là, c'est l'entrée en scène d'Yves Robert, hein, rencontre qui va changer absolument votre carrière, Vladimir Kosma. Vous avez composé, je crois, la musique de tous ces films. Et on était là sur la bande originale du Grand Blond en 72 avec un Pierre Richard, violoniste étourdi, pour de vrai, et faux agent secret. Et là, le violon qu'on entend, c'est vous.
C'est moi qui l'ai joué, oui, tout d'un coup. Je...
Donc vous jouez mal, exprès.
Non, je joue moderne.
Vous jouez...
Je joue moderne.
La différence entre mal et moderne.
Ce qui est...
pour les profanes. Alors, un mot sur cette musique qui s'appelle la sirba, parce que vous dites dans vos mémoires combien de fois 4 notes composées au fin fond des Balkans sont devenues des thèmes pour des films français. Est-ce que c'est le cas de cette sirba?
Quelle est la question exacte?
Est-ce que c'est une inspiration d'une musique roumaine, la sirba?
Non, c'est ce que Bartok appelait le folklore imaginaire. C'est-à-dire, je m'imaginais le folklore qui pourrait plaire à des Français. Parce que si vous écoutez du vrai folklore roumain, ça devient un peu incompréhensible. C'est très compliqué. Là, il fallait une musique simple, clair, mais qui a un côté folklorique.
Mais comment concevoir ce qui plairait d'un point de vue folklorique aux Français?
Aux Français ou aux Allemands ou aux Américains, c'est pas particulièrement aux Français.
Mais aux Européens, alors?
Oui, Européens. Il y a une culture musicale, il y a une façon d'écrire des mélodies à la tonalité. Bon, au début de ma démarche, je voulais trouver, ce que vous dites, un thème roumain réel, et que je l'arrange un peu pour le film. Et je n'ai jamais trouvé quelque chose qui me semblait que ça pourrait être compris, admiré par les Occidentaux. Donc je me suis mis à faire du folklore imaginaire.
Et puis en 73, vous allez croiser la route du roi du box-office. Oui, alors il faut imaginer De Funès. On est toujours chez vous, Vladimir Kosma. Je sais que derrière moi, là, sur un des meubles de cet immense salon dans lequel on est installé pour en sol majeur, il y a un petit Rabbi Jacob.
Il y a le roi De Funès.
Voilà, avec ses papillotes. Pour signer cette musique de Rabbi Jacob, est-ce que vos origines roumaines, d'Europe centrale, vous ont aidé?
Plus qu'aidé, c'était très important pour moi parce que imaginez-vous que pour trouver les thèmes de la danse, notamment de Rabbi Jacob, qui étaient les premiers thèmes qui m'ont été demandés par Gérard Houri...
La danse des jeunes hassidiques.
La danse des jeunes hassidiques. J'ai commencé à me laisser inspirer par la musique roumaine. C'est-à-dire que pour moi, il n'existe pas de musique folklorique juive. les musiques qu'on appelle...
Klezmer.
Klezmer, c'est une façon d'interpréter. Les musiciens klezmer sont des musiciens qui jouent à la manière juive, comme les tziganes jouent à la tzigane, mais ils ne jouent pas leur musique, ils ne jouent pas leur folklore. Ils jouent du flamenco espagnol, mais ils le jouent à la gitane. Mm-hmm. Alors, comme là, il s'agit des juifs d'Europe centrale, mm-hmm. eux, ils puisent de l'inspiration dans les musiques des paysans de Roumanie ou des choses comme ça. Donc, je me suis inspiré plutôt de ces thèmes d'origine roumaine. Il existe des musiques d'église, des musiques juives qui sont connues. Mais moi, les musiques populaires juives, je ne les connais pas, puisque les juifs n'avaient pas de pays.
Ce qu'on remarque dans vos musiques de films, Vladimir Kosma, c'est que dès les trois premières notes, on les retient, on peut les siffler sous la douche. Est-ce que vous avez eu des fulgurances parfois à la Beethoven qui en trois pop-pop-pom installe comme ça une musicalité, une mélodie qu'on va retenir?
Écoutez, il s'avère que si, puisque vous me dites que vous les...
Mais c'est venu comme ça
Ah oui, ça venait que comme ça. C'est-à-dire que le noyau musical, l'idée musicale mélodique m'est venue souvent comme ça. Deux notes, trois notes. Vous savez, la musique de Rabbi Jacob. Pam, 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 pam. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que... Pam, 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 pam. C'est la même chose. Enfin, c'est la même démarche. Ce n'est pas des thèmes musicaux, ça, c'est des motifs. Et on développe et ça devient le thème musical. Voilà.
Qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus piégeux pour le compositeur de musique de film que vous êtes? Est-ce que ce sont les scènes d'amour, par exemple, ou les scènes comiques?
Le plus difficile, c'est les scènes comiques. Surtout quand on ne veut pas faire de la musique comique. Puisque j'ai fait beaucoup de musique de comédie, mais je n'ai jamais fait de musique comique. Des musiques qui sont utilisées dans une comédie, mais elles ne sont pas descriptives.
Illustratives.
Elles ne sont pas illustratives. Donc c'est ça qui leur donne leur force et leur indépendance.
Alors il y a un film très connu lui aussi, mais qui n'est pas forcément associé dans nos mémoires à votre nom, Vladimir Kosma. On est en 1975 avec le tango de Dupont-Lajoie, film magnifique d'Yves Boisset. C'est une comédie à la française qui démarre sur un air de vacances, dans un camping. Pourquoi vous avez eu cette idée de tango?
C'est peut-être la première fois dans ma carrière pour le cinéma où on me proposait un sujet qui n'était pas une comédie pure. D'ailleurs, il y avait une espèce de double... regard dans ce film, il y avait la comédie et le drame. Le tango, ça me semblait une forme populaire qui collait bien à la population présente dans le film, dans un parking.
Pourtant, on était très France profonde. Enfin, il y avait des baraquements avec des ouvriers algériens et c'est là que le film, justement, va basculer dans le drame. Mais c'est des familles très, très françaises qui partent en vacances, qui font du camping.
Oui, mais... Le tango est devenu une forme de musique populaire française, jouée comme il est joué là. C'est-à-dire, il est joué un peu mi-français, mi-argentin, si vous voulez. Il y a de l'accordéon, ce n'est pas du pur tango argentin, quoi. Ce n'est pas Astor Piazzolla. Ouais, alors, le tango, c'est comme le slow. On peut faire un slow sur un film français. C'est devenu quelque chose d'international.
Alors, justement, bon, en parlant de slow, évidemment, on pense à La Boum, immense succès générationnel. Mais j'avais envie d'entendre, dans un autre genre, comédie grinçante, ceci.
Oh, je comprends rien de toi, là, c'est cru. Moi, leur papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous?
Non, je n'ai pas eu ce bonheur.
Vous êtes mariés?
Non plus.
Oh, ben, soyez pas triste, ça viendra. Chaque poisson son couvercle. Bon, alors, 208-061-280. Eh ben, voilà, ça, c'est tout la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez.
Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde?
Eh ben, oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses.
Exercez-vous une activité professionnelle. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse.
Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là. Hein?
Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X.
Zizette épouse X. Et vous savez pas lire? Là, regardez. Il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai mis Zizette épouse X.
Non, mais et X, vous êtes mariée à X peut-être?
Mais non, je veux pas de mari, seulement je peux pas leur dire. Je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre.
Alors, le morceau s'appelle « Le caddie de Zézette ». Évidemment, cet extrait du film « Le Père Noël est une ordure » devenu un film culte. D'abord, question au jeune homme roumain, devenu compositeur porte-bonheur pour les réalisateurs français, Vladimir Cosma. Est-ce que vous étiez réceptif à ce genre d'humour grinçant?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on n'a pas parlé de votre métamorphose. Vous êtes venu avec une culture, même si vous étiez francophile dans la famille, etc. Mais il y a eu quand même une métamorphose.
Il y a eu, mais enfin, on parlait avant de Sioran et tout ça. Il y a un humour qui est assez grinçant. Et il y a des... C'est assez proche, la littérature, l'humour français, de l'humour français.
Ah oui?
Oui, oui.
Quelle a été la difficulté pour cette musique de film, Vladimir?
C'est comme toujours, trouver une idée. Je me suis tout d'un coup... accroché à un moment donné au côté Père Noël et je me suis dit ça serait assez intéressant de faire quelque chose avec les double six. Vous voyez, des oui. voix, des chœurs de double oui. six. C'est un peu festif, c'est un peu gai. Et j'ai fait mon générique avec les double six et une musique de jazz.
Et là, dans ce film, on est avec l'équipe du Splendide. On est dans les années 80. C'est une émergence de jeunes générations de comédiens, d'humoristes, comiques, on va dire. Ça prouve aussi votre capacité à durer dans le temps, à vous adapter à des univers qui émergent comme ça.
Ben écoutez, si vous le dites.
Bon, ben je dis rien.
Merci.
Alors, bon, au revoir.
Merci.
Non, mais c'est une difficulté, ça aussi.
Est-ce que Mozart est meilleur que Bach? Si le compositeur n'a pas de talent, bon, au bout de 20 ans qu'il a écrit sa musique, elle n'existe plus, quoi. Elle a disparu. Parce que justement, c'était une musique mode. Je prétends que ma musique n'est pas une musique mode. Elle n'était pas faite du tout dans ce but-là.
Sur votre terre d'accueil, un coin qui vous rappelle votre terre natale.
J'aime bien parce que vous souriez à la voix de Shirti Diensek, qui est la voix de En Sol Majeur.
De quoi?
De l'émission. Bienvenue oui. En Sol Majeur, Vladimir Cosma.
Un coin en France qui me rappelle la Roumanie, c'est peut-être un peu Marseille, quoi.
Oui.
Un peu Marseille, oui, c'est une espèce de bordel.
Les Marseillais apprécieront.
Oui.
Et les Roumains aussi, d'ailleurs.
Oui. Non, j'aime beaucoup Marseille. J'écris des musiques qui sont inspirées de cet univers. Peut-être c'est pour ça que je parle de ça. Mais il y a des villages en France qui sont quasiment les mêmes qu'en Roumanie.
Votre musique a bercé des générations d'amoureux du cinéma. Vous faites partie du patrimoine français, on peut le dire comme ça, Vladimir Cosma.
Je suis le plus français des compositeurs de musique de film.
Ah, c'est intéressant que vous le formuliez comme ça. Justement, comment vous accueillez le discours, pour le dire très gentiment, de certains tatillons de l'identité nationale qui mesurent le degré de francité de certains de nos concitoyens. Comment vous traversez ces discours et cette France avec ces discours-là?
C'est un problème assez vaste et assez difficile, parce qu'une expatriation, une exilation, c'est quelque chose de très douloureux et très difficile à supporter. Alors, si on le fait pour des raisons artistiques, pour des raisons culturelles, ce qui était l'idée de mon père quand il m'a fait sortir de Roumanie, c'est une chose. Si c'est pour des questions militantes, politiques,
économiques,
ça c'est...
Oui, mais est-ce que ça en fait de moins bons exilés? C'est ce que vous sous-entendez, de s'exiler pour des raisons économiques plutôt que pour des raisons artistiques?
Ah oui, bien sûr. C'est pas intéressant, quoi. Si on vient pour gagner 300 francs de plus ou de moins, à moins qu'on soit moribond ou mourant de faim, ce qui n'était pas le cas de notre famille et des Roumains qui sont venus a priori, la plupart du temps, ceux dont on parle et qui sont intéressants sont venus pour des questions esthétiques, artistiques, quoi, pour pouvoir s'exprimer différemment, pour atteindre un niveau culturel qui les intéressait plus que ce qu'ils pouvaient faire dans leur propre pays, ce qui est encore discutable. C'est vrai que la langue roumaine est toute petite par rapport à la langue française. Et maintenant, la langue française est toute petite par rapport à la langue anglaise et ce qui est devenu, et c'est rapetissé. Mais là, on entre dans des discussions à n'en plus finir. Mais...
Alors justement, puisque vous parlez de langue, Vladimir, je sais qu'à quelques rues de chez vous, à Paris, il y avait une voix précieuse dont vous avez parlé plusieurs fois dans cette émission, venue elle aussi de Roumanie et qui s'est attachée à ciseler justement cette langue française. Et cette voix, c'est celle de Sioran.
Je me rappelle que j'avais 20 ans et un jour, ça c'est aussi un grand moment de ma vie, mon père étant prêtre, n'est-ce pas ça, ma mère n'était pas croyante, curieusement, ou à cause de ça. Et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Mais je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, il n'y avait que ma mère à la maison. Il était 2h de l'après-midi, ça, je m'en souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me jetais sur un canapé, je dis, je n'en peux plus. Et ensuite ma mère m'a dit, si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation. Donc, je suis le fruit d'un hasard, c'est aucune nécessité. Et ça a été, d'une certaine façon, une sorte de libération. Et ma mère, curieusement, elle a lu des choses que j'ai écrites en roumain, mais elle ne savait pas le français, elle ne savait que le hongrois. Mais ma mère comprenait ça. N'est-ce pas? Et alors, c'était curieux. Au début, je méprisais ma mère. Mais un jour, elle m'a dit, pour moi, il n'y a que Bach. Bach. Et ça, à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris que je lui ressemblais. N'est-ce pas?
Alors, oui, Vladimir Cosma, oui?
Ça me rappelle des souvenirs, là, les souvenirs des... parfois des après-midi et des nuits que je passais avec Sioran à discuter, à avoir ce genre de discussion.
Sur Bach?
Ben, il me sortait Bach de temps en temps, comme si c'était... On parlait musique, il n'était pas très musicien. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il refusait de converser avec moi en roumain.
Ah oui?
Oui, on était tous les deux à parler un français mauvais, avec accent. Et il m'a dit, tu sais, toi tu es musicien, tu ne peux pas te rendre compte, mais changer de langue, écrire dans une autre langue est très difficile. Et j'ai décidé en venir en France d'écrire en français et ne pas me faire traduire ou tout ça. Donc parlons, s'il te plaît, français.
Vladimir Cosma, vous dites que Sioran n'était pas très musicien, mais est-ce que vous étiez très littérature, on va dire?
J'aime la bonne littérature.
C'est quoi la bonne littérature?
Je n'aime pas tellement les romans, les choses comme ça. Je lis plutôt Nietzsche ou...
La philosophie, alors.
Oui, Schopenhauer, ça m'amuse. Sioran est aussi très marrant.
Sioran qui a écrit de l'inconvénient d'être né.
Né, oui, oui. Alors, les gens qui me disent qu'ils ont envie de suicider après avoir lu Sioran, moi, ça me fait rire, quoi. Je prends ça comme une espèce d'exagération, de recherche, de paradoxe comme ça, mais qui est plutôt du domaine du rire.
Vous qui n'êtes pas doué pour le bonheur, comme vous dites, mais finalement, ce n'est pas tragique quand vous dites ça.
C'est un constat.
En tout cas, vous êtes soucieux de la trace que vous allez laisser. Vous souhaitez évidemment, légitimement, que votre musique ne finisse pas dans une boîte en fer. Ça, ce pari-là, vous l'avez gagné. À lire chez Plomb, donc, vos mémoires. Vladimir Cosma, merci de nous avoir reçus chez vous pour En Sol Majeur. On va se quitter avec une de vos musiques de film.
Qu'est-ce que vous avez choisi pour le finir ?
La septième cible avec Ivry Gitlis, ça vous va ?
Ah oui. Et vous, ça vous va ?
Ah oui, moi ça me va. Au générique de cet En Sol Majeur à Paris, chez Vladimir Cosma, un César ou deux, les papillotes de Rabbi Jacob, un petit peu de Nadia Boulanger, le tout à podcaster sur votre application Pure Radio, comme toutes les émissions de RFI d'ailleurs. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, le trio vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Xavier Leclerc. À la semaine prochaine.